France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Andrés Serrano. Vers 19h45, le son du jour, Spud Webb de Samir Ahmad. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est toujours à la Venise pour la 60e Biennale d'art. Elle nous fera visiter ce soir la grande rétrospective consacrée à l'artiste franco-chinois Chu Chechun, visible à la fondation Giorgio Chini. C'est jusqu'au 30 juin. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Alex Dang à la prise de son. Bonsoir, Andrés Serrano.
Thank you.
Le musée Mayol propose une exposition intitulée Andrés Serrano décrypte l'Amérique. Ça ouvre le 30 avril et ce sera visible jusqu'au 30 octobre. Formidable occasion pour vous accueillir, savoir un peu plus sur la façon dont vous pratiquez votre art. Michel Zlotowski est avec nous dans ce studio pour traduire notre entretien. Je l'en remercie par avance. Il est déjà en train de travailler. Quelques éléments biographiques. Andrés Serrano, pour dire que vous êtes né en 1950 à New York. Vous avez grandi dans Williamsburg, quartier de Brooklyn, avec une mère née en Floride, mais qui a grandi à Cuba avant de retourner aux États-Unis quand elle avait 30 ans. Votre père, lui, venait du Honduras, a quitté le domicile familial quand vous étiez encore un petit garçon. Vous serez donc élevé par votre mère, ses deux sœurs et leur mère. À la maison, on parle espagnol. Une enfance compliquée du fait que votre mère a régulièrement des périodes de crise durant lesquelles elle a des hallucinations, elle entend des voix. On imagine que ça a dû être traumatisant pour l'enfant que vous étiez. Alors, quand vous utilisez comme référence dans vos œuvres la Pietà, un thème classique de l'iconologie, l'iconographie chrétienne, mais la Vierge Marie qui pleure son enfant qu'elle tient dans ses, sur ses genoux, on se dit que vous avez peut-être vécu une forme d'inversion de cette image. Est-ce que ça a été vous, l'enfant, Andrés Serrano, qui avez tenu votre mère dans vos bras?
Well, first of all, thank you.
Tout d'abord, merci. Tout ce que vous avez dit à mon sujet était exact, sauf une chose. Je n'ai jamais eu d'habitation ou de maison au Honduras, parce que ma maison a toujours été à New York City. J'ai visité l'Honduras en tant qu'enfant.
Moi, j'ai dit que votre père était parti au Honduras quand vous étiez petit. C'est un problème de traduction.
Oui, mon père venait du Honduras. Vous savez, vous avez mentionné le fait de la Pietà. Ce que j'aime au sujet de la Pietà, à part que ce soit un chef-d'œuvre de la Renaissance et vraiment ces chefs-d'œuvre en sculpture, ce que je trouve intéressant au sujet de la Pietà, c'est la relation du fils et de la mère. Et dans toute l'histoire, de la peinture, on voit la Sainte Famille, on ne voit jamais Joseph, le père, c'est toujours Marie, le Christ. Et donc, de cette manière, moi, j'ai une situation semblable avec ma mère. Je n'ai pas été élevé par mon père, donc ma relation était avec ma mère, tout comme le Christ, sa relation était avec sa mère.
Alors, deux autres peut-être choses marquantes à dire sur votre enfance, cette adolescence, c'est tout d'abord que vous recevez donc une éducation catholique. On va voir que ça a une importance dans votre œuvre, comme je l'évoquais avec les Pietà. Mais l'autre moment marquant, j'aimerais que vous nous le racontiez, Andrés Serrano, c'est une sortie scolaire quand vous avez, je crois, une douzaine d'années au Metropolitan Museum of Art à New York. Quel souvenir vous gardez de cette première visite dans ce musée ?
Well, my early visits to museums were
Mes
probably the first
premières visites au musée, le premier c'était à la Brooklyn Art School, où j'ai vu des sculptures classiques, des tableaux classiques. Plus tard, en grandissant, quand j'ai eu 11, 12 ans, et que je pouvais aller par moi-même au musée, j'ai commencé à aller au Metropolitan Museum of Art. Et j'ai toujours, je me suis senti proche, non pas de l'art moderne, mais beaucoup plus proche de l'art classique, Rembrandt, le Caravage, les vieux maîtres, en fait.
Mais est-ce qu'il y a, parce que vous allez retourner plusieurs fois seul dans ce musée, est-ce qu'il y a une forme de pulsion scopique, ce besoin de voir les œuvres, ou est-ce que aussi vous en cherchez à en savoir plus sur les artistes, est-ce que vous commencez à chercher dans des livres, dans les bibliothèques?
Quand j'étais jeune, j'étudiais l'art à travers les livres, principalement. Et j'ai toujours dit que, quand j'ai découvert l'œuvre de Marcel Duchamp, j'avais 15 ans à peu près, j'ai senti que Marcel Duchamp était le grand maître pour moi, parce qu'il m'a montré, et au reste du monde, que toute chose pouvait être de l'art, une œuvre d'art. Même quand je prends des photos, je me suis toujours appelé artiste, non pas photographe. Et Duchamp a prouvé que même une photographie pouvait être une œuvre d'art.
Alors en effet, à l'adolescence, on vous envoie dans une école de garçons, loin de chez vous. Ça ne vous réussit pas, André Serrano. Vous allez quitter le lycée assez tôt et donc aller étudier à la Brooklyn Museum Art School. On est à la fin des années 60. Vous étudiez la peinture, la sculpture, mais donc pas la photographie. Comme vous venez de le dire, vous ne dites jamais que vous êtes photographe, vous dites que vous êtes un artiste qui se sert d'un appareil photo. Ça, c'est vraiment très important. J'avance un petit peu dans le temps pour dire qu'une fois diplômé de l'école, vous allez vivre dans l'East Village de New York, un quartier où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, beaucoup de cinéastes, mais aussi beaucoup de drogue qui circulent, drogue que vous allez prendre, toute drogue, hein, pendant de nombreuses années, 8 ans, et une désintoxication totale, un peu avant vos 30 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a fait décrocher, André Serrano? Comment est-ce que vous avez réussi ce que très peu réussissent?
Quand j'ai eu 28 ans, à peu près, j'étais encore sous drogue, je prenais de la méthadone, qui était la seule façon d'utiliser de la drogue. C'est les drogues légales, c'est les plus difficiles pour s'en débarrasser. Et à 28 ans, je me suis dit, si j'ai 30 ans et que je suis encore sous la drogue, sous l'emprise de la drogue, je n'arrivais pas à être l'artiste que je veux être. C'était comme une horloge biologique qui m'a dit, il faut que tu cesses maintenant pour pouvoir passer à l'étape suivante de ta vie. Ce que j'ai fait.
Bon, c'est l'amour de l'art, de ce fait. L'art vous a sauvé.
C'est comme lorsque vous voyez le film Les Misérables, Frédéric March dit, il va à l'étape suivante de sa vie.
Mais pendant ces années d'addiction, est-ce que vous continuiez à aller dans les musées? Est-ce que vous aviez une pratique artistique quand même?
Pendant les années de drogue, j'étais accro à la drogue et je vendais un peu, j'étais un petit peu fourgueur de cam pour survivre. Et j'ai compris que je ne pouvais pas servir deux maîtres à la fois. La drogue, je devais me débarrasser de la drogue avant de pouvoir passer à l'art.
Alors, une fois sorti de cet épisode, vous trouvez un travail d'assistant du directeur artistique d'une agence de publicité. Là, vous allez pouvoir travailler la photographie que vous allez adopter comme un outil pour votre travail artistique personnel. Alors, j'ai un doute sur les dates, mais comme vous êtes là, André Serrano, vous allez pouvoir m'expliquer. Je sais que vous avez emprunté son appareil photo à une amie qui s'appelle Mélie, et qu'il est question d'une première photo en noir et blanc de votre grand-mère à un moment où elle se repose. Cette photo-là, c'était quand vous étiez encore à l'école ou c'était après les années d'addiction?
The picture of my grandmother,
la photo de ma grand-mère, je l'ai prise avec ma copine de l'époque, Millie. Et c'était en 69 probablement.
Et
c'était avant l'épisode de la drogue.
Mais donc revenir à la photographie, il y aura une première exposition personnelle à la Leonard Pearlson Gallery en 85. À la fin des années 80, André Serrano, vous débutez la série Bodily Fluids avec au départ le désir d'une forme de photographie abstraite en recouvrant vos images de sang, d'urine, de lait, de sperme pour avoir cette dimension picturale. Ce sera ensuite la série Immersions et en particulier évidemment cette œuvre Peace Christ qui est présentée pour la première fois à la galerie Stux en 87. Peace Christ, c'est un morceau du groupe Bad Dreams. Alors, il faut dire que votre œuvre, André Serrano, a suscité beaucoup de commentaires, même des chansons. On en parle maintenant, comme ça, on pourra mieux nous concentrer sur le reste de votre travail. Peace Christ, c'est donc une photo qui montre un crucifix de couleur claire. Il est vu de trois quarts par la gauche. Il est immergé dans un liquide indéterminé. On voit dans le fond de l'image du rouge sombre, du mort doré. Alors, pour réaliser cette photographie, vous avez immergé un crucifix en plastique dans un grand bain d'urine et de sang. Ça a été récompensé par un prix. Une œuvre qui a été montrée dans plusieurs villes aux États-Unis. Il y avait une exposition itinérante. Sans aucun problème, jusqu'à ce qu'un pasteur méthodiste, dont je ne dirai pas le nom, c'est pas la peine de lui faire de la publicité, s'offusque de sa présentation à Richmond, en Virginie. Il mène une campagne, il écrit à tous les membres du Congrès, il y a des sénateurs conservateurs qui reprennent cette polémique et depuis cette œuvre, elle a subi beaucoup d'actes de vandalisme perpétrés par des croyants intégristes en Australie, en Suède, en France aussi, à la collection Lambert. Pourtant, cette œuvre, André Serrano, c'est une manifestation vraiment à la fois de vos profondes connaissance du christianisme, mais aussi d'une forme de croyance. Leur Caravage ou Raphaël, certains de vos maîtres, étaient dans cette tradition de la représentation religieuse. Comme eux, votre œuvre a suscité le scandale, mais elle nous montre un Christ complètement humain. C'est ça que vous voulez nous montrer.
Je voudrais clarifier une chose. Il y a une mauvaise conception de mon travail. Et vous êtes super parce que vous avez beaucoup de bonnes choses, mais il y a une mauvaise conception, c'est que l'idée que c'était un petit crucifix dans un pot d'urine. Mais non, c'était un grand réservoir, c'était un très grand crucifix. Et c'est l'association des familles américaines. C'est pas un prêtre, c'est pas un pasteur, mais c'est ce groupe fondamentaliste chrétien américain qui m'a attaqué. Beaucoup plus important, ils ont envoyé des lettres à 187 000 lettres exigeant que le Congrès et le Sénat et qu'on me dénonce et qu'on dénonce l'utilisation erronée de l'argent des contribuables. Avec ce type de campagne de la droite, la controverse autour de Peace Christ est arrivée et ça a mené aux guerres culturelles avec l'annonciation de Robert Mapplethorpe aussi. Et donc, les politiciens et la droite fondamentaliste en Amérique ont commencé à poursuivre les artistes tels que moi.
Mais c'était bien Christ dans toute son humanité et dans toute sa divinité que vous vouliez montrer.
Vous
avez mentionné le Caravage, et je regarde très près le Caravage parce que c'est un être humain avec des failles, comme nous le sommes tous. Mais il a c'est un être humain qui a du pouvoir et qui est un artiste. Et le grand art vient des gens qui sont tourmentés et en bien et en mal. Il n'y a rien de mal avec quelqu'un qui est méchant ou mauvais aussi longtemps qu'il peut créer du bon art.
Et
comme je l'ai dit précédemment, le lien, sentir un lien avec les peintres de la Renaissance et même avant, je sens un lien avec l'art religieux. Il y a eu une époque avant le XVIIe siècle où le seul art important aujourd'hui était religieux, c'était l'art chrétien. Donc moi, je fais partie de cette tradition-là.
Puis il faut dire que l'année dernière, vous avez été invité, André Serrano, avec d'autres artistes au Vatican, que vous avez été béni par le pape François. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ?
C'était comme une nouvelle naissance, parce que c'est quelque chose pour laquelle j'avais prié, que j'avais espéré pendant de nombreuses années, et c'était comme, je pensais que ce serait quasiment impossible, pas simplement d'avoir la reconnaissance des églises, mais la reconnaissance du pape, donc c'était une prière, et j'ai reçu cela finalement.
Alors, pour sortir de cette séquence et avant d'entrer dans l'exposition, qui va ouvrir au musée Mayol, où le Peace Christ est présent. D'ailleurs, on va découvrir votre choix musical, André Serrano, qui s'est porté sur une chanson de Bob Dylan, parue en janvier 64 sur son troisième album, The Times They Are A-Changing. Le titre de la chanson qu'on va écouter fait référence à l'épître aux Romains de Saint Paul. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? C'est une chanson qui fait référence à plusieurs événements historiques. Alors, pourquoi ce choix, André Serrano ?
With God on my side is
avec Dieu à mes côtés, bah, c'est très important parce que c'était quelque chose que Dylan a compris, que tout le monde, même les Allemands, croyaient que Dieu était de leur côté.
Et
nul d'entre nous ne pense que Dieu est contre soi. Tout le monde pense que Dieu est avec soi. C'est la condition humaine. Nous pensons tous que nous avons raison et nous croyons tous que Dieu est à nos côtés.
Je précise quand même que les Allemands dont parle Dylan, ce sont les nazis. Hein, ce sont ceux du Troisième Reich, pas les Allemands, d'une façon générale. On écoute Bob Dylan.
Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side.
the Spanish American War had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get, but I learned to accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. The Second World War came to an end. We forgave the Germans, and then we were friends. Though they murdered 6 million in the ovens they fried, the Germans now too have God on their side.
On va reprendre le cours de cette conversation. André Serrano, Bob Dylan, continue d'égrener hein, ceux qui croient que Dieu est à leur côté. Mais alors, ce qu'on voit, ce qu'on va pouvoir voir plutôt à partir du 30 avril au musée Mayol, ce que savent celles et ceux qui connaissent bien votre œuvre, c'est que vous êtes un portraitiste, André Serrano, portraitiste de personnes de la marge, tout autant que portraitiste de célébrités ou de personnes qui représentent des fonctions. On va évoquer quelques séries, mais rappelons ce qu'on en voit dans l'exposition. En 90, il y a la série Nomads, une série de portraits réalisés en studio de sans-abri new-yorkais. Et la même année, il y aura aussi The Clan, avec cette fois des membres du Ku Klux Klan qui prennent la pose, cagoulés. Deux minorités dont l'Amérique connaît l'existence, mais disons qu'elle préfère ne pas voir. Vous allez poursuivre d'une autre façon cette visibilité de la vérité avec la série de Morgue, avec des formats très grands de photographies de cadavres, avec pour seule légende les raisons de leur mort. Comment est-ce que dans ces années-là, on est dans les années 90 encore, vous décidez, André Serrano, des sujets de vos séries? Comment est-ce que vous décidez les personnes dont vous avez envie de faire le portrait?
Mon
processus est très instinctif, organique. Une chose mène à l'autre, une photo mène à une autre photo, une série à une autre. Donc je pense qu'il y a une ligne, un lien, un fil rouge. Le thème qui revient dans toute mon œuvre, c'est l'idée du portrait, que ce soit un individu, un lieu, un objet, c'est un portrait, c'est toujours un portrait. Je me suis toujours dit que mon œuvre était ouverte à l'interprétation. C'est un portrait de ce qu'on peut prendre comme quelque chose qu'il ne faudrait pas photographier, les morts à la morgue, ou quelque chose avec lequel on a un problème, une chose avec laquelle on a un problème, comme Donald Trump, ou le Ku Klux Klan. Mais moi, j'aime bien regarder les choses de façon impartiale. Je suis curieux et je pense que mon public est curieux. Donc, je photographie sans jugement. Le seul jugement que j'ai, c'est un jugement esthétique. J'essaye de faire des photos qui sont belles, qui ont une belle composition, une bonne lumière, un bon éclairage, et que le sujet, quel que soit le sujet, qui que ce soit, Elle erre bien, apparaissent bien. Et donc mon désir n'est pas de, non pas de condamner César, mais peu importe quel est le César, mais d'honorer César.
On va évoquer dans un instant d'autres portraits, ceux de la série America, mais les séries que je venais d'évoquer, par exemple, font en effet, pour aller vite, du beau avec du laid. Vous magnifiez une vérité qui n'a rien de belle, alors qu'elle soit celle de la condition des sans-abri, mais celle aussi des membres du clan et de leurs croyances. Vous nous montrez la laideur du monde comme un appel à une prise de conscience, mais vous nous invitez à vraiment regarder André Serrano et vous nous donnez, dans vos titres, les informations essentielles pour que justement on puisse vraiment voir. Il me semble que vous êtes très attentif à la réception de vos œuvres pour tout le monde, pour tout public. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce qu'il voit.
I'm a simple guy, so
je suis un mec simple, donc j'ai des pensées simples. Je ne fais pas de l'art pour l'art, je fais de l'art pour la vie, sur le sexe, sur la religion. Des choses que tout le monde réfléchit à ça, tout le monde sait ça. C'est pas un langage artistique, c'est un langage humain que j'utilise. Et au sujet des SDF, des portraits des SDF, il n'y avait rien de laid là-dedans. En fait, ils étaient très beaux. Et donc, je trouve que la beauté, je la trouve là où je peux, parce que je pense qu'il y a de la beauté partout, même à la morgue.
Extrait de la pièce de Steve Reich, WTC 9-11, avec le Kronos Quartet qui l'interprète et des extraits sonores de la police, des avions, des tours de contrôle du 11 septembre 2001. Cet événement qui vous amène, André Serrano, à réaliser cette série America. Pendant 3 ans, vous allez faire des portraits qui sont comme autant de visages de l'Amérique, qui composent, même dans leur diversité, ce qu'est l'Amérique. Des sans-abri à nouveau, mais aussi des mannequins Playboy, des Boy Scouts, et puis des célébrités. On en voit quelques-unes dans l'exposition à Mayol, comme Snoop Dogg, Chloé Sevigny ou encore Donald Trump. À ce moment-là, pas du tout encore président des États-Unis. Dans America, je reviens au portraitiste André Serrano, chacun est un symbole, mais chacun reste un individu.
Absolutely.
Tout à fait.
Somebody has asked me more than once.
Quelqu'un m'a demandé plus d'une fois. On m'a demandé plus d'une fois. Est-ce que vous avez fait un autoportrait? Et je leur ai dit, mais non, tout mon travail est un autoportrait. C'est-à-dire que moi, je ne m'identifie pas à mon travail. Et comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de jugement de valeur, que ce soit Donald Trump, le clan, les SDF, mais entre mes mains, les gens sont des mains, ce sont des gens, ce sont des individuels, ce sont des symboles, et j'essaye de les portraiturer plus grands que nature. Parce que quand je prends une photo, ça veut dire que je veux trouver quelque chose de bon en eux.
Alors cette série, justement, comme nombre d'autres, me permet de vous interroger sur votre attachement au studio pour vos prises de vue. C'est une chose évidemment très importante pour America, comme pour d'autres images. Ça donne des images sulpicienne, on en revient à cette iconographie religieuse, des images très précises, des fonds colorés. Le studio, il permet justement la maîtrise, il vous permet de faire exactement l'image que vous voulez.
Exactement. Parce que si je prenais des photos d'une autre manière, dans la rue, dans un studio normal, ça serait simplement des portraits, des photos. Mais la façon dont je les prends, moi, je les produis en les transformant en œuvres d'art, comme des tableaux. Je veux avoir plus un lien avec la peinture qu'avec la photographie. Il faut vous souvenir, j'ai toujours utilisé le film, l'argentique. Donc mes photos, mes images ne sont jamais retouchées. Elles ne sont jamais reconstruites d'une manière ou d'une autre. La façon dont vous les voyez, c'est la façon dont moi je les ai vues quand j'ai pris la photo. Donc il y a un sens de pureté que je veux avoir, qui signifie qu'elles sont plus terre-à-terre de cette manière-là. Il n'y a rien de moi dedans, il n'y a rien de créé, de trituré là-dedans.
Alors, quand ce ne sont pas des revolvers ou des jouets, est-ce que des êtres humains, est-ce que vous parlez avec vos modèles, André Serrano?
Parfois, je parle avec mes modèles quand je sens qu'on a suffisamment de temps pour bavarder, s'ils sont amicaux, s'ils veulent me parler. Mais parfois, je ne parle pas avec mes modèles. J'ai photographie Karl Rove une fois, pas moi-même, pas pour moi, mais pour un magazine. Et j'ai senti tellement de haine venant de cette personne, tellement d'animosité, je me sentais pas à l'aise de parler avec lui, pas du tout. Même chose avec Donald Trump, j'ai pas parlé avec lui, parce que je sais que Donald Trump est très rapide, il réfléchit très très vite, et il est fatigué très rapidement, il est ennuyé très rapidement. Si je dis quelque chose qui va l'ennuyer, ou qui va le mettre en colère, il va réagir. Et en ne disant rien, j'ai eu une demi-heure, comme ça, pour qu'il ne parte pas. Et dans la photo avec Donald Trump, les gens ont dit, mais comment est-ce que il est représenté? Il n'a pas réussi à me capter. Et c'était bon. C'est comme ça que je le vois. Il essaye de me capter et ça ne marche pas.
Oui, on dirait qu'il veut sortir du cadre pour vous attraper.
Je pense qu'il est resté suffisamment longtemps pour rester vraiment bien dans le cadre.
Mais
j'ai jamais vu une meilleure photo de Donald Trump que lorsqu'il était quand il avait 20 ans. Mais il a l'air encore très très bien même aujourd'hui.
Alors pour rester sur des questions de forme, André Serrano, le format de l'image compte beaucoup, plus grand que nature, disiez-vous tout à l'heure. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Est-ce que ça montre mieux? Est-ce que c'est pour ça que vous les voulez grandes, vos images?
Je veux faire des œuvres que les gens, dont les gens vont se souvenir. Des œuvres que vous pouvez voir à travers la pièce pour que ça ait un impact, un effet.
Et
je les crée comme une déclaration esthétique au sujet de la personne. Il y a quelques années, j'ai fait un travail sur le métaverse, sur les robots. Et ce sont des photos de robots, des robots vintage des années 60, 70. Et je les ai conçus comme des portraits de robots. Ils viennent en différentes couleurs, blanc, rouge, vert, mais ils ont des caractères différents. Et même avec les robots, j'ai pu véritablement arriver à leur personne, à leur âme.
Oui, on en a quelques exemples aussi au musée Mayol, et je pense à ce lion rugissant, par exemple, qu'on pourra voir à partir du 30 avril chez Mayol. Mais c'est, là aussi, cette très grande précision, il y a ces couleurs très fortes, mais il y a aussi d'autres formes de couleurs. Il y a la série Infamous que vous avez réalisée en 2019, André Serrano, qui montre ce racisme des États-Unis envers les Afro-Américains au travers des clichés de boîtes de jeux de société, de jouets, de vieux costumes, des paquets de lessive qui malmènent les hommes et les femmes noirs. Ça, c'est un travail qui démarre comment pour vous ? C'est d'abord par une collection, parce qu'on n'a pas parlé de cet aspect-là, vous collectionnez beaucoup.
En 2016, j'ai commencé ce travail, The Games, All Things Trump. Et il y avait un portrait de Donald Trump, très différent du portrait que j'avais fait précédemment. C'est un portrait de Donald Trump utilisant tous les objets qui ont été créés pour lui, pour son empire, pour ses casinos, ses hôtels. C'est pour sa marque. J'ai passé 3 ans là-dessus, enfin, disons 2 ans là-dessus. Et j'ai collectionné plus de 1000 objets pour cette inspiration. Après avoir terminé avec Donald Trump, avec ce jeu, je me suis dit que j'aimais l'idée d'aller vers le passé et d'exhumer le passé et trouver des objets que je voudrais photographier, des objets du passé. Et c'est là que je suis arrivé à l'idée de Infamous, tentant de faire ressortir de la tombe des objets du passé, en particulier du passé américain.
Alors, il faut dire qu'il y a certains des objets de The Game, Donald Trump, qui sont aussi présentés au musée Mayol. C'est vraiment une exposition très riche. Mais on parlait du studio, André Serrano. Vous êtes bien sûr sorti quelques fois du studio, mais surtout en allant à Cuba. Alors c'était votre premier voyage, je crois, de votre vie. Vous aviez un peu plus de 60 ans déjà dans le pays de votre mère. Et vous avez beaucoup plus que d'habitude travaillé dans la rue. Pourquoi ?
C'était bête pour moi d'aller à Cuba et travailler au studio. J'aurais pu faire ça chez moi. Donc quand je suis allé à Cuba... Tout Cuba, tout ce que j'ai vu là-bas, tout ce à quoi j'avais accès est devenu mon studio. Et ce travail est très différent. C'est aussi très différent du travail que j'ai fait en Israël, quand je suis allé à Jérusalem, dans la vieille ville, et en Cisjordanie. C'est un travail très différent dans la façon dont je travaille d'ordinaire. Je le fais par le passé, mais en fait, je préfère rester dans le studio.
Alors, c'est sûr qu'on a essentiellement parlé de photographie, André Serrano. Il faut quand même dire que vous êtes, alors si je puis dire, enfin venu à la peinture. On a pu voir à la galerie Nathalie Obadia, fin 2013, la série Doom of Beauty, alors qui ajuste ce geste pictural à vos photographies. Alors, il faut que j'explique un petit peu que ce sont des clichés en noir et blanc que vous avez pris, qui reprennent des œuvres de la Renaissance, cette Pietà dont on parlait, ou le David de Michel-Ange, les sculptures gréco-romaines. Dans un deuxième temps, vous ajoutez de la couleur avec de la peinture acrylique et des pastels. Alors, est-ce que vous êtes enfin devenu peintre ?
I think so. And je le pense. And once I started doing et une fois que j'ai commencé à le faire, j'étais surpris que ça prenne tellement de temps. Et j'étais très heureux de découvrir que j'aimais utiliser mes mains. J'aime utiliser la peinture. Et je travaille d'une certaine façon. Ces photographies de sculptures classiques, de sculptures grecques, romaines, et c'est de la pierre, mais je les mène à la vie avec de la couleur, avec une interprétation. Et donc, j'ai redécouvert quelque chose sur moi-même, c'est que j'aime peindre. Et au musée Mayol, je suis heureux qu'une de mes piétas y soit. Et ça fonctionne très bien avec ces tableaux de femmes. Et je dois dire que, au sujet du travail de Mayol, que j'ai vraiment regardé, autant que je regarde maintenant, aujourd'hui, il est très, très érotique. C'est un sculpteur, un artiste très érotique. Il aime les femmes. Et je me sens très chez moi, dans ce musée, avec mon œuvre qui joue avec son œuvre. À certains moments, il y a une relation entre nos œuvres. Et on joue l'un avec l'autre.
Alors, notamment, un des plaisirs des expositions au musée Mayol, c'est de voir ce qui se passe au deuxième étage, parce qu'il y a toujours, pour les artistes invités, la possibilité d'installer des œuvres au milieu des œuvres de Mayol. Comment s'est effectué ce choix avec les commissaires de l'exposition, qui sont Michel Draguet, Élie Barnavi et Benoît Remiche, en l'occurrence, de placer votre enlèvement, les Sabines?
C'est pas moi qui ai fait le choix. Ça m'a été offert. Et j'ai fait quelques petits choix que je voulais mettre en place. Et je les ai demandés. Et ils l'ont fait. Mais ils ont vu ce qui pouvait être fait. Ils ont vu comment mon œuvre pourrait être incluse dans le musée. Et ils ont fait un travail merveilleux. Et je dois dire que c'est une de mes meilleures expositions dans un musée. Il y en a eu beaucoup dont j'étais fier, mais ça, c'est une de mes favorites.
Oui, vous l'avez découverte, je sais pas, hier ou avant-hier. Comment vous avez vécu ce parcours très riche, hein?
One picture in particular.
Un tableau en particulier. Je suis venu en février pour planifier cette exposition avec Michel Legay. Je voulais une photo dans un endroit particulier, une pièce particulière. Une pièce avec des panneaux de bois, avec un sentiment très intime. Et je voulais que ma peinture soit là avec les dessins de femmes de Mayol là-bas. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que la Pietà était dans un certain endroit que j'ai pas aimé. Et j'ai demandé qu'elle soit placée ailleurs. Et je pense qu'ils vont être capables de le faire. Parce que, en tant qu'artiste, je suis un bon juge de mon propre travail et comment il apparaît bien, comment mon travail apparaît bien. Et je suis très heureux de donner un coup de main quand c'est nécessaire. Mais dans ce cas particulier, c'était inutile. Ils ont compris parfaitement quoi faire avec mes œuvres.
Eh bien, il me reste à rappeler que le musée Mayol propose donc cette exposition intitulée « Andrés Serrano décrypte l'Amérique du 30 avril au 30 octobre ». Les commissaires en sont Michel Draguet, Élie Barnavi, Benoît Remiche. Merci à Michel Zotowski qui a assuré la traduction de notre entretien. Et grand merci à vous, Andrés Serrano, d'avoir été notre invité.
Même en tant que créateur de Peace Christ, on m'a appelé de différents noms. Même aussi de sacrilège, je voudrais vous dire que je ne crois pas. Je crois que Dieu est de mon côté.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Le titre du nouvel album du rappeur montpelliérain Samir Rahman, La vie est bien faite, en dit long sur son état d'esprit. Semblant tout droit sorti du manuel d'Épictète, cette assertion conduit le rappeur à apprécier la valeur des choses. En véritable sage du hip-hop, il manie la punchline, aussi bien que les héros de Sergio Leone manient la gâchette. Grand admirateur du maître du western, Samir Rahman considère le rap américain comme son Far West à lui. La chimère qui le conduit à écrire. Skizz Up a produit l'essentiel des instrumentations de l'album en mettant à l'honneur la soul, le jazz ou encore le blues, tant de genres que le hip-hop porte en héritage. De quoi accueillir les rimes efficaces de celui qui se décrit dans le morceau Spud Webb comme un Baudelaire en sportswear. C'est notre son du jour.
Venu faire taire les statistiques, souvent qualifié de lascar mystique. Je conclus, je participe, sans concu quand je pratique. Truc artistique issu du Bronx Sud. L'autre m'a dit, check la baraka. Dieu te met à l'épreuve, à pas le chialer à la caf. Oh, scar là à la page, j'aime rapper à la marge. Respect ce folklore, au tico shot de folklore. J'ai touché le fond avec ma propre personne. Cette nuit est claire ou bien ce jour est sombre. J'aime jouer son quand dehors toujours résonne. Si j'avais Smith et Wesson, j'aurais toujours raison. Fuck mes doutes et toutes ces ombres. Mes excuses en toute saison. Y'aura plusieurs combinaisons. J'ai la taille de Spudweb, j'suis Baudelaire en sportswear. Une sorte de solfège, du petit déj au sunset. Respect ce folklore au tico shot de fuck up. Avant de voir le bidon vide, qui combine avec ma propre personne. J'aime quand tu m'aimes sans autorisation. La musilette dans visière, Jean-Paul Anderson. Faut que je quitte ce monde et retourne à civilisation. Dans le cadre sans certification. Rap des poèmes pour films d'action. Avec ma propre personne. La nuit est claire ou bien c'est sur et sombre. J'aime jouer son quand dehors je joue résonne. Si j'avais Smith et Wesson, j'aurais toujours raison. Fuck mes doutes et toutes ces ombres. Mes excuses en toute saison.
C'était Spud Webb de Samer Ahmad, extrait de son nouvel album « La vie est bien faite ».
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir, nos dernières étapes à Venise. Ce soir, je vous propose de visiter une grande et belle rétrospective de l'artiste chinois Shu Teixun, maître du paysage abstrait et star du marché de l'art. Et c'est le commissaire de l'exposition Mathieu Poirier qui nous fait la visite. Direction la Fondation Chini.
La base de cette exposition, c'est une envie de ma part de découvrir le travail que je connaissais, comme beaucoup de monde et peut-être certains d'entre vous, très mal. L'idée, c'était de, comme je fais souvent, quand un boulot m'intrigue, je vais voir des œuvres. Donc voilà, je suis curieux, je contacte la Fondation, on s'entend bien, je vois les tableaux, je me dis mais c'est incroyable. Voilà, j'ai eu le même choc en voyant les œuvres à la Fondation que j'avais eu en voyant les œuvres dans une autre fondation, celle de Hans Hartung, et découvrir aussi le travail d'Anna Eva Berman. À l'époque, c'était une vraie surprise. C'était en 2010, quelque chose comme ça. Et là, je retrouve finalement la même émotion. Donc ça va me permettre de rebondir pour parler de la biographie de Shu Teixun. C'est un artiste qui est né en 1920. Il va à l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou, mais il a une formation qui est déjà très pointue pour l'époque parce que ses professeurs ont été formés en France, aux Beaux-Arts de Paris ou à Dijon. C'est complètement étonnant. Et donc qui sont déjà très ouverts à la modernité, qui vont l'initier finalement à Picasso, à Cézanne, etc. Il va déjà être très curieux. C'est pas quelqu'un qui va évoluer dans un milieu finalement sino-chinois. Il va déjà, par sa formation, être ouvert sur l'étranger. Et à la fin de cette formation, il devient professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Ensuite, il arrive en France en 55, après un passage par Taïwan où il enseigne de 49 à 55, il est assistant professeur et il arrive à Paris avec un peu de sous qu'il a gagné en vendant quelques œuvres dans une exposition et objectif, tenir un an à Paris et ensuite aller à New York. Paris lui plaît. Il a trouvé une chambre d'hôtel rue Laumont à Paris du plus grand confort, une chambre de presque 6 mètres carrés dans laquelle il va vivre pendant 2 ans et demi. Et c'est dans cet espace-là qu'il va finalement expérimenter, apprendre le français tout doucement, et puis surtout, voir de l'art, lire des livres, visiter à peu près tous les musées possibles et imaginables, se confronter à cet art occidental qu'il ne connaissait que par le biais de reproductions de toute petite taille, en noir et blanc, dans des ouvrages qui étaient justement commandés par ses professeurs lorsqu'il était en Chine. Donc en 55, c'est le tout début, sauf que en quelques mois à peine, il bascule dans l'abstraction. Il voit une rétrospective Cézanne au Grand Palais, l'année d'après, rétrospective de Stahl, qui le marque, non pas tant pour la peinture, mais l'idée qu'on peut être un peintre abstrait. L'exposition est une forme d'écriture en soi. On est arrivé dans un espace, la Fondation me dit on a un espace, ben attention, c'est challenging. C'est une ancienne piscine qui sert depuis une dizaine d'années à des expositions. Sur le coup, je fais oups, je m'attendais plus aux espaces un peu plus classiques, typiques de biennale. Mais après, je me suis dit, pour peu qu'on pense à une scénographie qui fait le lien entre la complexité de ce site, qui est une forme de canyon au fond, et la planéité picturale de ces tableaux, enfin en tout cas l'objet, on est vraiment, c'est des tableaux, c'est de l'huile sur toile, si on arrive à trouver le lien, ça peut être intéressant. Et donc avec deux scénographes, qui ne sont nul autre que le fils et la belle-fille de l'artiste, on a conçu cet espace en résonance avec les tableaux, avec quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de chaos organisé. Et ici, peut-être un tableau qui est tout à fait intéressant, parce qu'il parle de quelque chose, des forces de la nature, presque des forces telluriques. On a quelque chose de l'ordre de l'éruption volcanique dans ces tableaux. On a même parlé en 1958, c'est Michel Ragon qui invente l'expression, de paysagisme abstrait. Pour beaucoup, notamment dans les années 60, c'était l'horreur absolue. Alors là, on était vraiment dans l'école de Paris, l'abstraction lyrique, l'expressionnisme abstrait. La place était à d'autres de courants artistiques. Mais aujourd'hui, je pense que envisager le paysage comme un grand impensé de l'histoire de l'abstraction me semble absolument essentiel. C'est finalement l'image en filigrane. C'est la source d'où découle non pas une image figée du paysage, mais finalement la mise en avant de certaines de ces données dynamiques. Une vision du paysage qui, pour le coup, choque pas un artiste de tradition ou de formation chinoise pour qui le paysage en lui-même n'a rien de réaliste. Le paysage chez Chu Te-Chun et chez d'autres artistes aussi, contemporains, le paysage est privé finalement de ses acteurs qui normalement évoluent au centre comme le décor par rapport aux acteurs, le décor d'une scène. Le paysage, le décor a pris son autonomie. C'est-à-dire que le paysage est devenu un paysage d'événement. Il est lui-même au cœur de l'action, c'est lui-même l'acteur. Donc ce qui se passe dans le paysage, c'est pas juste un fond, une neutre qui accueille quelque chose, c'est l'événement lui-même. Donc il y a une forme de révolution scopique. Et surtout, ce qui me semble fondamental aussi chez ces artistes, c'est que la disparition de la figure laisse place à une autre figure, mobile, vivante, variable, inconstante au possible, celle du spectateur. Nous sommes partie prenante de la composition. Et évidemment, se placer à proximité d'elle nous fait plonger dans un vortex, dans un maelstrom finalement, et nous fait nous projeter mentalement dans un espace sans prise réelle, sans solidité. Et c'est tout à fait vertigineux, et ça fait partie de l'expérience esthétique que procurent ces tableaux. Chu Te-Chun est aujourd'hui une des stars du marché. Oui. Voilà, c'est un des artistes depuis une dizaine d'années, un des 50 artistes les plus chers du monde. Mais quelque part, c'est dommage de s'arrêter à ça. L'important, c'est de comprendre aussi pourquoi ce travail plaît, tous azimuts, et pas juste en Asie, même si c'est évidemment un foyer important pour les collectionneurs, comprendre finalement sa singularité et aussi cette capacité à se relier à plein de choses. C'est pour ça que le livre, dont j'aimerais quelque part projeter en diapo toutes les pages, permet de comprendre tous ces, à la fois la singularité, mais tous les points de touche de ce travail, avec par exemple Sam Francis, avec Hélène Frankenthaler, avec Maurice Louis, mais aussi évidemment avec Goya, avec Rembrandt, comprendre un petit peu comment il a façonné cette étrangeté totale et comment sa réception, d'une certaine manière, a pris un petit peu plus de temps qu'elle n'aurait dû pour diverses raisons. Tout à l'heure, je croisais un grand galeriste historique qui me disait « Ah, je l'ai rencontré en 67, mais il ne voulait pas de contrat avec les galeries. » Il ne voulait pas jouer ce jeu-là. Ce qui est fou, c'est qu'il a gagné d'une certaine façon, mais c'est évidemment, et on le sait très bien, une forme d'exception à cette logique qui veut qu'un grand artiste, et sa succession en l'occurrence, soit articulé à des grandes galeries.
Un des plus grands peintres chinois contemporains vivants, Yan Peiming, est là, hein, au vernissage, juste en face, je le vois devant moi. Pour rendre hommage, il est là pour rendre hommage à son ami, Shu Teixun. Alors je vous propose, on va lui demander son avis sur cette grande rétrospective. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ami de l'artiste.
Exactement.
Ouais. Comment vous le connaissez ?
Je suis venu avec son adresse par un autre copain de lui en Chine. Voilà, je lui portais une lettre. Voilà, donc je suis allé voir. Après, chaque année, je suis allé voir une fois par an quand j'étais, quand j'étais étudiant au Beaux-Arts.
Ah oui, donc vous le connaissez depuis très longtemps ?
Oui, depuis que je suis arrivé en France. Voilà, c'est lui qui m'a dit que voilà, donc restez à Dijon, il a une école de Beaux-Arts. Son professeur, il a fait l'école de Beaux-Arts à Dijon.
À Dijon.
Voilà, donc c'est. Voilà, donc en plus, chaque fois que je fais, quand j'étais étudiant, je fais l'exposition à Paris, il est toujours venu à mon vernissage. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'élégance.
Qu'est-ce que vous en avez pensé là de l'exposition ?
Je trouve que c'est une exposition dans un lieu très particulier. Voilà, une mise en scène, c'est pas habitude pour nous. Voilà, donc entre les piscines, descendre, tout ça, on fait un bon travail. Mmh. Voilà, donc oui, on n'a pas habitué.
Aller voir comme ça ces œuvres-là.
Voilà, ouais. Voilà.
Est-ce qu'il y a une des œuvres que vous préférez ou une des périodes que vous préférez, plutôt les grands formats, les formats récents ?
Non, je pense que toutes les périodes, il y a une qualité assumée. Ça veut dire que pour moi, c'est vraiment un travail sur l'intérieur de lui-même. Mmh. Voilà. Donc, toutes les périodes sont bonnes. Voilà, qu'il n'y a pas de, on peut dire que le Picasso, voilà, que quelle période est bon. Est-ce que c'est à la fin est bon ou c'est au début est bon. Voilà, normalement, c'est une construction d'une vie.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je vous propose de découvrir la nouvelle école du rire qui ouvrira en septembre à Avignon et elle est pilotée notamment par l'humoriste Jérémy Ferrari.
Merci Marie et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.